La mission dans tous ses états. Congrès 2016. La mission dans tous ses états. C'est aussi le démarrage du pôle mission des communautés et assemblées évangéliques de France. Bien oui, on est en train d'organiser une synergie autour de ce thème de la mission et cela se met en place dans notre famille d'églises. Nous avons trois objectifs. Interpeller nos églises, sensibiliser entre autres la jeunesse, premier objectif, interpeller nos églises. Deuxièmement, accompagner les projets. Et troisièmement, collaborer avec les missions. En fait, il y a du travail et nous voulons rassembler les forces vives. Alors, vous connaissez l'ASMAF, vous connaissez GLO, l'équipe M21. Vous ferez plus ample connaissance ce soir avec eux. Et puis, nous voulons aussi travailler avec tous les partenaires spécialistes, MENA, CIM, etc. Tous nos amis, tous ces spécialistes en missiologie. Pour être plus forts ensemble et pour travailler sur ces objectifs. Alors vous découvrirez tout cela tout au long de ce congrès, mais aussi à travers les stands, l'AG de la SMAF qui sera tout à l'heure. Et puis pour ceux qui surfent pendant les réunions, eh bien, vous pourrez le faire positivement puisqu'on vient d'ouvrir le site Pôle Mission CAEF. Voilà, non, c'est pas très très bien. Éteignez vos portables pendant les réunions. Désactiver le Wi-Fi gratuit ou la 4G de vos tablettes pendant toutes ces rencontres. Alors une question, pour rebondir sur cette citation de Piper tout à l'heure, une question. Mais comment la mission s'intègre-t-elle dans la finalité de tout chrétien d'adorer son Seigneur ? Autrement dit, la mission, pourquoi, comment, qu'est-ce que la mission ? Alors, je ne répondrai pas à ces questions, mais j'ai la joie d'accueillir notre frère Jonathan Spencer. Alors, je vais lui demander de s'approcher. Qui sera un plaisir de commencer à répondre à nos questions pour cette première conférence. Voilà. Alors, Jonathan, tu nous viens d'Angleterre. Tu es marié avec Salomé.
Oui.
Tu as deux enfants. Alors, je vais dire des bêtises. C'est je bon. Regarde mes notes. Benjamin et Emeline, 4 ans et demi. Et 2 ans et demi.
Très exactement, ouais.
Voilà, tu nous viens du sud-ouest, de Toulouse. Mmh. Où as-tu posé la charcuterie pour la CSR ?
J'ai pas pensé, malheureusement. Okay.
Voilà. Alors, on se réjouit d'avoir Jonathan qui va nous conduire dans cette première réflexion sur la mission. Et je crois que ta mission que nous t'avons confiée, c'est d'aborder le thème théologique de la mission. Et là, nous sommes dans tes cordes. Merci, Jonathan.
Merci. Merci, Michel. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un honneur, effectivement, d'ouvrir ce congrès avec l'exposé de cet après-midi, puis demain matin, pour poser un petit peu quelques fondements théologiques pour ce thème de la mission. Et c'est un plaisir particulier, puisque nous nous trouvons ici à Nantes. Et je vous fais une confidence entre 400 personnes. C'était au service des églises CEF de cette ville qu'il y a bientôt 15 ans que j'ai moi-même découvert, participé à la mission pour la première fois. Et je vois encore quelques visages de cette époque-là. Donc ça fait d'autant plus plaisir d'être là, ici à Nantes avec vous. Alors l'un des livres bibliques qui nous dit le plus sur la mission, c'est en fait l'un des évangiles, c'est l'évangile selon Jean. Et c'est avec lui que j'aimerais que l'on commence cet après-midi et demain matin. Est-ce que vous vous souvenez de comment son récit commence ? C'est l'un des passages les plus connus de toute la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean, il nous ramène au tout début, il nous ramène à la création du monde, à la Genèse. Et puis, il avance petit à petit dans ce prologue, et puis il nous dit à un moment donné qu'en cette parole était la vie, et la vie, elle était la lumière des hommes. Et puis, il fait cette affirmation époustouflante, comme quoi la lumière est venu sur terre et a commencé à briller parmi les ténèbres. Et ensuite, un peu plus loin, verset 14, il va encore plus loin, ça devient presque blasphématoire. À certains de ses auditeurs, c'est un blasphème de prétendre que ce grand Dieu de l'Exode, le grand Dieu du salut d'antan, serait venu en chair et en os, planter sa tente, son tabernacle parmi nous sur terre. Mes amis, qui est le plus grand missionnaire de tous les temps? Qui est l'envoyé par excellence? Ce n'est pas l'apôtre Paul, ce n'est pas Billy Graham, ce n'est même pas Brad Dixon. Je sors. Non, on est d'accord que le plus grand missionnaire de tous les temps, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la bonne nouvelle par laquelle nous devons, il me semble, commencer cette rencontre, c'est l'énorme soulagement, c'est l'énorme encouragement de savoir que la mission, ce n'est pas quelque chose que nous entreprenons, ce n'est pas une œuvre que vous et moi, nous aurions à accomplir. Je ne vais pas passer une heure à vous fouetter pour vous dire « Allez, faites ceci, faites cela ». La première chose dont nous devons nous souvenir et la chose sur laquelle nous pouvons nous reposer, c'est cette fabuleuse vérité, à savoir que le plus grand missionnaire de tous les temps est déjà venu chez nous. Quand la personne de son Fils, Dieu, avant que nous ayons eu l'idée d'organiser un congrès autour de la mission, avant que cette idée nous ait effleuré l'esprit, Dieu lui-même est déjà venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu, à commencer par vous et moi. Et c'est avec cet encouragement que nous devons commencer. Mais on ne va pas s'en tenir là, puisque l'évangile ne s'arrête pas là non plus. Vous vous souvenez aussi du verset d'ailleurs qui a été affiché dans la petite présentation tout à l'heure. L'évangile de Jean commence par Jésus, le missionnaire qui vient parmi les ténèbres. Et comment est-ce que l'évangile se termine? Vous vous souvenez, chapitre 20, chapitre 21, l'envoi missionnaire. Tout comme le Père m'a envoyé, c'est le grand mouvement de l'évangile vers le haut, vers le bas. Jésus qui vient vers le bas et puis qui repart vers le haut et qui dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé sur terre, moi, maintenant, je vous envoie. Et donc, on va voir ces deux axes de la mission cet après-midi et puis demain matin. Et j'aimerais vous inviter à les découvrir avec moi dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean. Donc j'espère que vous avez tous une Bible. Si vous n'avez pas de Bible, honte sur vous. Et je vous autorise à vous connecter sur le réseau Wi-Fi de l'hôtel uniquement pour télécharger Jean 4. Et puis ensuite vous fermez la connexion. Jean chapitre 4. Parce qu'en fait en Jean 4, déjà au début de l'évangile, nous avons en microcosme ces deux axes de la mission. D'abord, nous avons un précis de la mission de Jésus. Et ensuite, nous avons un discours de Jésus. Et puis un exemple très pratique que nous verrons demain matin de ses disciples, de ses envoyés à lui. Et en fait, je dévoile d'entrée, d'emblée, la grande idée de ce texte, la grande affirmation à l'échelle de l'évangile, la révélation que ce chapitre 4 va nous apporter, se trouve au verset 42. Et vous verrez de suite le lien avec la mission. Verset 42 du chapitre 4 de Jean, les Samaritains qui se réunissent dans cette ville et qui disent à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, c'est-à-dire Jésus, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Christ, le Sauveur du monde. » Et ça, c'est une échelle qui est monumentale à l'échelle de l'Évangile et puis aussi à l'échelle de notre théologie des missions. Donc l'affirmation principale se trouve là, au verset 42. Et l'enjeu de la mission est déjà affreusement clair à l'autre extrémité du texte, au chapitre 3 et le verset 36, à la fin du chapitre 4, juste avant le début de notre texte. Regardez ce verset bien connu qui résume en quelque sorte un drame qui est en train de se dérouler depuis le début du ministère de Jésus. Regardez le verset 36 du chapitre 3. Voici l'enjeu, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Voici la bonne nouvelle, voici l'évangile. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. Et là, on voit que l'heure est grave, on voit que l'enjeu est réel et de taille. Il y a deux destins. On ne peut pas se voiler la face là-dessus. Si on veut prendre Jésus-Christ au sérieux, il y a deux destins éternels. Et c'est Jésus qui fait la différence entre ces deux destins. Mais le problème dans Jean jusqu'ici, c'est que, regardez, on ne peut pas dire que la mission de Jésus jusque-là, jusqu'au début du chapitre 4, a été une réussite fulgurante. Souvenez-vous, chapitre 1, verset 11, parlant de la lumière que j'ai évoquée tout à l'heure, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Voici le drame, et la lumière est venue, elle n'a pas été accueillie, elle n'a pas été comprise. Ensuite, Jésus, il va dans la pensée des gens chez lui, en Judée, chapitre 2, verset 13 et suivant jusqu'à la fin du chapitre 3, et c'est l'échec complet. Il rencontre Nicodème, chapitre 3, verset 11, et lui dit directement, « Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Verset 19 du même chapitre, « Voici quel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré quoi ? Ils ont préféré les ténèbres. » Chapitre 3, verset 32, maintenant c'est Jean-Baptiste qui rend témoignage et qui parle de lui-même. Il dit verset 32 du chapitre 3, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Et c'est pour cela, mes amis, que ce chapitre 4 est tellement extraordinaire. Parce que qu'est-ce qui va se passer au chapitre 4 ? Eh bien, je vous dirai, après tant d'échecs, après tant de contre-exemples, après tant d'exemples de foi défaillante, de foi défectueuse, ou simplement de scepticisme et de rejet, on va voir naître enfin une foi exemplaire. Où ça ? En Samarie. En Samarie, c'est pas loin, c'est pas exotique. Et c'est tout sauf glamour. Et pourtant, c'est là que dans la pensée de Jean, la mission mondiale de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre va commencer. Regardez le verset 35. Les champs sont blancs pour la moisson. Déclaration de Jésus-Christ en Samarie. Et Jean, il veut que nous comprenions que si l'évangile peut aller jusqu'en Samarie, eh bien, il peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a plus aucune frontière qu'il ne sera pas capable de franchir. Donc, pour voir comment on en arrive à cette affirmation, à cette conviction que Jésus est le sauveur du monde, qu'il n'y a plus aucune frontière que l'évangile ne peut franchir. Merci beaucoup, vous êtes sympa. Je suis en train de mourir là, je ne sais pas vous. Pour voir comment on arrive au verset 42 du chapitre 4, et comment on arrive à cet enseignement très connu sur la mission des versets 27 à 42, on doit d'abord commencer, c'est ça qu'on va faire maintenant, commencer par ces versets 1 à 26 et la mission de Jésus lui-même, l'homme qui est venu, d'après Jean, c'est ça qu'il veut que nous comprenions ici, que Jésus est l'homme qui est venu dans le monde pour connaître et pour combler tous les cœurs. Jésus-Christ, l'homme qui est venu pour connaître et pour combler tous les cœurs. Et ça, c'est la conviction de base que nous devons avoir expérimenté personnellement si notre mission va avoir du sens, si notre mission va décoller véritablement. Il faut d'abord que nous ayons bénéficié de sa mission avant d'être qualifiés pour la nôtre. Je vous invite donc à lire les 26 premiers versets de Jean chapitre 4. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es un juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous, dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je vous invite à prier. Notre Père, nous venons ici des quatre coins de la France, dans le besoin. Nous avons soif, on a faim de toi, on a besoin d'être nourri par toi. Et nous venons dans cet état de besoin, mais aussi avec une grande confiance que ton Fils et ta parole sont suffisants pour abreuver notre soif, pour nous remplir, pour nous combler. Et nous te demandons de faire justement cela, maintenant pour ta gloire et pour notre mission. Amen. Alors si on veut comprendre la femme samaritaine au chapitre 4, on fait bien de la mettre dos à dos avec Nicodème, le personnage central du chapitre 3. Si vous voulez comprendre la femme samaritaine et Nicodème, pensez à Neuilly-sur-Seine et au 9-3. Tout les oppose. Lui, il est nommé, elle, anonyme, on ne connaît pas son nom. Un homme et une femme. Un entretien de nuit, l'autre, verset 6, notre chapitre, sous le soleil de midi. Lui, sans doute moralement irréprochable, elle, verset 18, regardez, 5 mariages ratés. Lui, le représentant aristocratique, l'un des représentants les plus éminents de la religion juive pure cèpe, elle, une paysanne issue d'une race détestée de bâtards dont la déchéance morale ne connaît aucune limite. Vous avez compris, c'est la classe et c'est la racaille. Et tous les opposent. Au point qu'on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble dans cet évangile ? Et la réponse, n'est-ce pas, elle est totalement claire. Malgré toutes ces différences, malgré tout ce qui les oppose, ce qui les unit est plus important encore, et c'est leur besoin, ils ont désespérément besoin de cet homme qui connaît et qui comble tous les cœurs. Alors quels sont les problèmes de la femme samaritaine au juste? Bah écoutez, son nom résume pas mal les choses. Elle est une femme, premièrement, elle est une samaritaine, deuxièmement, et avant de me faire caillassé par toutes les femmes, c'est pas qu'elles soient femmes en soi, on est d'accord, mais c'est en lien avec sa féminité. Et en fait, la topographie de ce texte, Jean se sert de la géographie, figurez-vous, il se sert de la géographie, de la topographie pour nous sensibiliser à son besoin, à ses deux grands problèmes. Et j'aimerais qu'on voit brièvement d'abord son problème, et ensuite, l'offre de Jésus, le problème de la femme et l'offre de Jésus. Donc, premièrement, son problème. Problème souligné par la topographie, je l'ai dit. Qu'est-ce qui domine ce texte sur le plan de la géographie? Est-ce que vous l'avez déjà visualisé? Qu'est-ce qu'on a dans ce texte? Deux repères. Un repère souterrain, un puits, et puis une montagne. Et c'est le puits qui domine les versets 7 à 19, 18, et ensuite la montagne qui domine les versets 20 à 26. Et ces choses-là sont là pour nous sensibiliser aux besoins de cette dame. Et ce sont deux besoins qui sont en fait intimement liés à la question du sexe et du mariage. D'abord le puits, regardez avec moi de près les versets 3 à 6. Regardez ce qui est en train de se passer ici. Quand vous avez cherché le West Hotel à Nantes, je parie que vous êtes allé sur Google Earth, n'est-ce pas? Et vous avez regardé d'abord la France, et ensuite le Loire-Atlantique, et ensuite vous avez trouvé l'agglomération nantaise, et ensuite vous avez trouvé le West Hotel. Et en fait, Jean, il fait exactement la même chose, 2000 ans avant Google. Il est là, il fait ça dans les versets 3 à 6. Regardez à quel point il veut nous sensibiliser à ce point précis, géographique. Verset 3, Jésus quitta la Judée au sud pour retourner en Galilée. Comme il devait passer, deuxième niveau de ce zoom, il devait traverser la province de la Samarie. Dans la Samarie, regardez verset 5, il arrivait dans la ville, la commune de Samarie appelée Sychar. Dans cette commune, il n'a pas fini, il continue, le champ et ensuite dans le champ, le puits. Au verset 6. Vous avez vu ça? Trois versets. Le papier, ça coûtait cher. S'il prend tout ce temps pour nous sensibiliser à cet endroit, à ce point-là, c'est pour une raison. Il veut qu'on remarque ce puits. Et pas n'importe quel puits. Le puits de qui? Jacob. Alors, qu'est-ce qui se passe autour du puits? À l'époque de Jacob, à l'époque des patriarches. Vous vous souvenez? Je vous dirai ce qui se passe. Un voyageur arrive d'un pays lointain. Il est assoiffé, fatigué de son voyage. Qu'est-ce qu'il fait? Il se pose au bord d'un puits. Survient en même temps, providentiellement, une belle jeune femme vierge du coin, la jeune fille bien sous tout rapport, la jeune fille providentielle. Elle court joyeusement à sa rencontre, elle lui offre gentiment à boire, à lui, à ses troupeaux. Ils se mettent à discuter, ils font connaissance, elle l'invite au village. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une célébration, une grande fête. Une fête de quoi? Une fête de mariage, une fête de fiançailles. Pensez à Rebecca, pensez à Rachel dans la Genèse. Le puits de Jacob. Et qu'est-ce qui se passe ici en Jean 4? Sensiblement la même chose. Sauf, et c'est ce à quoi Jean il veut nous sensibiliser, il y a quand même une grosse différence entre cette dame et Rachel et Rebecca, n'est-ce pas? Cette femme, elle n'est pas la jeune fille bien comme il faut, bien sous tout rapport, providentiellement prévue par Dieu. Non, cette dame, elle est une catastrophe sentimentale ambulante. Verset 18, 5 mariages. Et l'homme avec lequel elle est maintenant, qui n'est même pas son mari. Et puis l'union qui sera célébrée au village, ce ne sera bien entendu pas entre Jésus et cette femme, mais entre Jésus et les croyants de Samarie. Ce qui ne devrait pas nous surprendre si on a lu attentivement Jean jusqu'ici. Parce que qui était Jésus au début du chapitre 2, aux noces de Cana? Il a pris le rôle de qui? Il a pris le rôle de l'époux. Et puis regardez chapitre 3, le verset 29, qui était Jésus d'après Jean-Baptiste, juste avant ce passage, il était le marié. Je vous passe les détails sur l'Apocalypse où ce thème est encore développé. Voilà le puits. Premier problème de la femme samaritaine, sa situation sentimentale et matrimoniale. Deuxième problème, verset 20-26, la montagne. Et là, ça devient encore plus compliqué. Cette montagne, quelle est sa fonction? Elle est là pour nous rappeler que, non pas la féminité, le problème, les problèmes conjugaux de cette femme, elle est là pour nous rappeler sa nationalité, ses origines. La montagne nous rappelle que cette femme, elle est une samaritaine. Regardez verset 20, ça paraît très bizarre au premier abord. Jésus dit, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, elle l'indique. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. C'est cette montagne dont elle est en train de parler est la source d'une dispute millénaire. Et vous savez, si vous avez lu la Bible, que les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendent pas, la parole du bon Samaritain, tout ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Vous vous souvenez? 622 avant Jésus-Christ. Après la division des royaumes du nord et du sud, les deux tribus du sud, Judée et Benjamin, se séparent, vous vous souvenez? Division des royaumes, et peu après, les 10 tribus du nord, le royaume du nord se fait envahir par qui? Par l'Assyrie. L'Assyrie, les barbares venus d'Orient. Et pour faire court, suite à cette invasion, les habitants des royaumes du Nord s'entendent avec leurs conquérants, les Assyriens, pour ne pas avoir à être déportés, pour ne pas devoir partir de là où ils étaient. À une condition. Quelle était cette condition? Cette condition, c'était de se marier avec les enfants de leurs conquérants. Une démarche qui était bien entendu strictement interdite par l'Ancien Testament. Vous vous en souvenez? En Deutéronome, surtout pas. On ne se marie surtout pas avec les peuples autour. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se marient allègrement avec leurs conquérant, mais le mariage reste la meilleure garantie anti-guerre pour les générations futures, parce que comme ça, tu obliges tes ennemis à tirer sur leurs propres petits-enfants en cas de révolte armée. Et c'est comme ça que la race samaritaine, elle est née. Une race d'enfants bâtards, mi-juifs, mi-assyriens. Et ces mariages entre juifs et assyriens menaient à quoi? Moïse leur avait prévenu, ça menait directement tout droit à l'idolâtrie et au rejet du temple historique à Jérusalem, le centre du culte juif depuis des siècles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces Samaritains? Ils se construisaient un autre temple, un temple rival, chez eux, sur le mont Guérazim visible depuis le puits de Jacob. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce temps? Ils pratiquaient l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est comparée dans l'Ancien Testament à quoi? Par tous les prophètes? À l'adultère, à l'infidélité sexuelle de manière très graphique. Est-ce que vous voyez ce que Jean est en train de nous dire? Les deux problèmes, ces deux repères sont intimement liés. Ce que la femme samaritaine a fait littéralement n'est autre chose que ce que sa race a fait spirituellement. Vous le voyez, adultère littéral, adultère spirituel. Les deux problèmes de cette femme, le puits et la montagne. Cette femme, quel est son problème? Elle est la représentante parfaite de son peuple, de sa race, comme Nicodème. Vous voyez le besoin? Souligné par la géographie, par la topographie, par le puits et la montagne, une femme privée de satisfaction dans la vie, issue d'une race privée d'intimité avec Dieu. Voilà pour ses besoins. Deuxièmement, l'offre de Jésus. Qu'est-ce que c'est que Jésus, un homme juif, va offrir à cette femme samaritaine devant ce puits, en face de cette montagne? Quelle est sa mission? Il va lui donner, il va lui offrir à elle et puis à nous tous, précisément ce dont elle est privée. Il va lui offrir, versets 7 à 18, l'eau qui donne satisfaction. Et ensuite, dans les versets 20 à 26, l'esprit de l'intimité avec Dieu, l'esprit de l'intimité véritable. Il va lancer dans ce texte deux bombes atomiques théologiques. Il va lui offrir cette eau qui donne satisfaction, cet esprit d'intimité avec Dieu, en lui offrant exactement la même chose qu'il a offert à Nicodème d'ailleurs. Vous vous souvenez de quoi est-ce qu'il a parlé avec Nicodème, Jésus? Il a dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et pour expliquer, parce que Nicodème, il n'a pas trop pigé au début, il disait, Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. De quoi est-ce que Jésus parle avec la femme samaritaine, versets 7 à 19, de l'eau, versets 20 à 26, de l'esprit. Et en fait, tout cela découle directement de cette image d'eau qui est en train de fonctionner à trois niveaux. Et on va voir ces trois niveaux. Premièrement, premier niveau de compréhension de cette eau que Jésus offre à cette femme pour sa satisfaction dans les versets 7 à 12. Regardez comment Jésus inverse les rôles. Versets 7 et suivants, il arrive, il demande à la femme à boire. Elle est un petit peu surprise de son approche, de sa façon de parler, un petit peu abrupte. Et puis au verset 10... Jésus, déjà en train de mettre le doigt sur son besoin, qu'est-ce qu'il lui dit? Il inverse les rôles. Qui a vraiment soif ici? C'est lui qui a traversé le désert, c'est lui qui vient demander à boire. Et pourtant, il dit, verset 10, qui c'est qui a vraiment soif? C'est toi. Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Premier niveau de sens de cette eau vive. Ça paraît très bizarre comme ça, eau vive. On connaît l'eau de vie, mais l'eau vive, on ne sait pas trop ce que c'est. Bah, pour eux, l'eau vive, c'était de l'Évian. Je vais prendre un petit coup d'ailleurs. C'était de la vitelle. C'était une façon de désigner l'eau qui était potable, l'eau qui ne stagne pas. Et donc, on pouvait boire. Et c'est ça qu'elle comprend. Et au début, elle pense que Jésus est en train de parler de ça, de H2O, de ce qui désaltère. Et c'est pour ça qu'elle pose la question au verset 11. Mais il est où ton seau? Regardez, c'est ça qu'elle demande, plus ou moins, au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? C'est parce que l'eau vive, c'est ça. Regardez. Ah, ça fait du bien. J'allais vous raconter autre chose. Restons dans le sujet. Mais déjà, rien que la provision d'eau vive, rien que la provision d'une bonne gorgée d'Évian, ça paraît totalement impossible à cette femme samaritaine. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Parce qu'au verset 12, on n'est pas en train de parler sur le plan spirituel. On est encore sur le plan littéral. Regardez le verset 12. Ça lui paraît, rien que ça, rien que cette eau littérale, rien que de l'H2O, ça lui paraît impossible. Verset 12, es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Serais-tu plus grand que notre héros national, Jacob, lui qui a creusé ce puits millénaire où tout un peuple s'abreuve depuis des générations? Jésus plus grand que Jacob, à votre avis? Ô chère dame, verset 13, regardez. Ô si tu savais, regardez, c'est ici la première bombe atomique que Jésus va lancer. Jésus lui répondit, ma chère dame, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. J'aurais beau te donner un paquet d'Évian, j'aurais beau t'amener un camion, mais tu aurais encore soif. En revanche, verset 14, regardez, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et là, on se dit, waouh! Alors là, on n'est pas en train de parler de H2O. On est passé à un autre niveau. Jésus est en train de parler de quelque chose de totalement différent. Il est passé au deuxième degré, mais comme si souvent Jean, la pauvre dame, l'interlocuteur de Jésus est resté au premier degré, n'a rien compris. Regardez verset 15, Jésus vient de lui offrir une satisfaction existentielle, éternelle, qui ne s'arrêtera jamais. Elle entend au champ direct. Regardez verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à revenir puiser. Et si, c'est... ah oui, de l'eau, j'en veux. C'est super ça, un programme d'hydratation à vie gratuite. Plus besoin de se désaltérer, plus besoin de faire ces allers-retours pénibles au pire. Ah bah c'est cool, je signe, montre-moi les papiers. Et là, je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait que le récit ne s'arrête pas là, sur ce malentendu? Ils utilisent le même langage, mais ils parlent de deux choses complètement différentes. Qu'est-ce qui fait que le récit, que cette rencontre ne s'arrête pas là? Vous avez déjà posé cette question? Eh bien, je vous suggère, c'est en raison de la mission de Jésus. Regardez la suite. Ce qui amène cette dame à réaliser que Jésus parle d'autre chose que de l'âge de zoo, c'est la réalisation bouleversante que cet homme Jésus connaît son cœur. Regardez comment Jésus, on a l'impression qu'il passe du coq à l'âne. On a l'impression qu'il change totalement de sujet au verset 16. On était en train de parler de l'eau de source, et puis verset 16, Jésus dit tout à coup, va appeler ton mari. Mais quel rapport? Quel rapport entre cette eau et sa vie conjugale? Le rapport, mes amis, c'est la soif. C'est la soif. Jésus est en train de regarder dans le cœur de cette dame. Il est en train de mettre le doigt là, pile à l'endroit où ça fait vraiment mal. Pourquoi? Parce que c'est sa mission. Il est l'homme qui connaît et qui comble tous les cœurs. Il est venu non seulement pour connaître le cœur, mais pour le combler. Mais d'abord, il faut qu'elle réalise qu'elle a besoin de plus que de l'eau de source. Il est en train de mettre son doigt sur sa soif existentielle, ce qui lui a amené à un tel naufrage sur le plan sentimental. Ce après, elle languit et soupire intérieurement. Sa vie est un naufrage et Jésus-Christ le sait. Parce qu'il connaît le cœur de chacun de nous. Il sait où nous avons mal. Il sait où chaque personne dans cette ville et dans ce pays a mal. Et regardez l'importance de cela dans la suite. Parce que, est-ce que vous avez déjà vu ce que la Samaritaine retient de cet entretien avec Jésus? Quand elle va raconter plus tard au village, à ses amis, ce qui s'est passé? Quel est le niveau de sa compréhension théologique? Qu'est-ce qu'elle dit à ses amis au village? Oyez, oyez, aujourd'hui j'ai communié avec le Verbe incarné. Est-ce qu'elle dit, venez voir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Non. Qu'est-ce qu'elle dit, verset 29, regardez. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Même chose au verset 39. Est-ce que vous voyez sa logique? Elle est en train de se dire, mais cet homme, il connaît mon cœur. Et si c'est lui qui connaît mon cœur, ne serait-ce pas lui qui serait aussi en mesure de le combler? Et c'est là qu'on passe sans transition au verset 20 à 26. Depuis à la montagne, avec maintenant un troisième degré, une nouvelle bombe que Jésus va lancer, un troisième degré, maintenant à la montagne, troisième niveau de sens de cette eau vive que Jésus offre. Parce que là, mes amis, c'est bien beau de dire que Jésus offre l'eau vive, il a beaucoup parlé, mais honnêtement, après les 19 premiers versets, il y a quelqu'un ici qui serait capable de me dire ce en quoi consiste cette eau vive? Il y a des indices dans le texte? C'est quoi cette eau vive? Concrètement, c'est bien d'en parler, mais va expliquer ça à ton voisin qui est athée. Jésus te donne l'eau vive. Super, où ça? Comment? Pour avoir la réponse à cette question, il faut lire la suite de Jean. Parce qu'en fait, Jean, vous le savez, il revient à cet épisode plus tard, au chapitre 7, à la fête des tentes, la fête de tabernacle. Et là, il y a une grosse cérémonie. C'est au chapitre 4 où d'énormes quantités d'eau sont déversées dans les parvis du temple pour se remémorer la délivrance de l'Exode, la grande époque de ce salut schématique de Dieu. Et puis on lit en Jean 7, verset 37, le dernier jour. le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et puis Jean rajoute, note de l'éditeur, verset 39, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Quelle est cette eau vive que Jésus donne? Comment notre soif existentielle sera-t-elle étanchée à travers cet esprit qui sera donné aux croyants? Et ça aussi, on l'a déjà vu avec Nicodème, vous en souvenez? Vous vous souvenez de l'association de l'eau et de l'esprit aussi au chapitre 3 avec Nicodème, association de l'eau et de l'esprit pour faire quoi? Pour naître de nouveau, il faut naître d'eau et d'esprit, ce qui veut dire quoi? Devenir enfant de Dieu, naître de nouveau, devenir enfant de Dieu, qui est synonyme de quoi dans l'évangile de Jean, qui est synonyme, chapitre 1, verset 11 à 13, synonyme tout simplement de la foi, du fait de croire en Jésus, de placer sa confiance en celui qui est acclamé à la fin du chapitre 4 comme le sauveur du monde. Comment notre soif sera-t-elle étanchée? Quelle est la source de cette satisfaction qu'aucune relation humaine, qu'aucune expérience sexuelle ne pourra nous procurer? Dieu. Et cette intimité incroyable qui devient possible avec lui à tous, à n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment, grâce à l'envoi de son esprit. Et c'est ça le message de ces chapitres, versets 20 à 26 du chapitre 4. Au verset 19, si vous regardez, la femme, elle pense changer de sujet. On ne sait pas si c'est parce qu'elle est un petit peu gênée par ses révélations sur sa vie privée, ou bien si c'est plutôt qu'elle se dit, tiens, j'ai en face de moi un pro de la spiritualité, un prophète, ah, bah, je vais lui poser toutes mes questions spirituelles. On ne sait pas quelle est la motivation de ce changement de sujet, mais en tout cas, elle pense qu'elle est en train de changer de sujet. Verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète, mais tu sais quoi, moi et toi, on ne va pas pouvoir s'entendre. Tu sais pourquoi? Moi, j'avoue que tu es fort, mais toi et moi, ça ne va pas marcher. On ne va pas pouvoir s'entendre. Pourquoi? Bah, verset 20, regardez la montagne, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir s'entendre. » C'est ça la source de cette dispute millénaire et elle pense qu'elle est en train de changer le sujet, mais en fait à son insu elle est en train en fait de l'approfondir. Elle dit verset 20, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne Gerazim en Samarie, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem, sur la colline du mention de Jérusalem, deux collines. Vous voyez, c'est le problème du pluralisme, deux temples, deux lieux sacrés, deux religions, comment choisir? Vous dites que c'est là-bas, nous on dit que c'est ici, ben on ne peut pas savoir. C'est un vrai problème. Quelle est la réponse de Jésus à ces casse-têtes culturelles et spirituelles millénaires? C'est sa deuxième bombe. Verset 21. Regardez, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où tout ça sera fini. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne en Samarie, ni sur la montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Tout ça, c'est fini, c'est une affaire classée. Peu importe, verset 22, l'origine du salut, en l'occurrence, le salut vient des Juifs, mais ce n'est pas là l'important. Parce que ce qui est important, c'est que ce salut, il est désormais offert à tous, à n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Regardez, verset 23, l'heure vient... Elle est déjà là où les vrais adorateurs, adorant le Père en esprit et en vérité, en effet, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Qui est le missionnaire? Qui c'est qui est en train de chercher? C'est pas nous, c'est Dieu. Et en la personne de son Fils, en la personne de Jésus-Christ, il est en train de promettre qu'il sera capable non seulement de connaître, mais de combler chaque cœur à travers cette intimité avec lui. Et le séisme ici, pour cette femme samaritaine, pour les lecteurs de Jean, c'est que Dieu n'a pas d'adresse fixe. On ne peut pas aller frapper à la porte à Jérusalem et prendre rendez-vous avec lui. On ne le rencontre plus dans un temple. On ne le verra pas dans une église. J'espère que vous ne dites pas le dimanche matin, viens, bienvenue dans la maison de Dieu. Je suis désolé de vous en informer, il n'habite pas dans un lieu fixe. On ne le trouvera ni sur le mont Sion, ni sur le mont Gérazim. Il n'est pas la propriété d'un groupe, d'un peuple. Vous vous souvenez de ce que Jésus avait déjà dit à la fin du chapitre 2 en Jean, regardez. À la fin du chapitre 2, alors qu'il se trouve devant ce temple grandiose, l'incroyable temple d'Hérode, qui était considéré à l'époque comme l'une des merveilles du monde. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples ? Faites-le sauter, démolissez-le, il ne sert à rien, détruisez le temple. Ce temple qui est en chantier depuis 46 ans, qui n'est toujours pas achevé. Et moi, je vais vous en construire un nouveau. Et vous savez combien de temps je vais mettre ? 3 jours. Et Jean ajoute, verset 22, il parlait du temple, de son corps. Le lieu de la rencontre universelle entre Dieu et les êtres humains. Et figurez-vous que chapitre 4, verset 7, n'est pas le dernier endroit dans l'évangile de Jean où Jésus aura soif. Vous vous souvenez ? Chapitre 19, alors qu'il agonise sur la croix, quel est son cri ? J'ai soif ! C'est pas incroyable ça ? Qui c'est qui a soif ? Mais on pensait que c'était la femme samaritaine. Mais non, à la croix, au chapitre 19, l'homme qui au chapitre 4 et au chapitre 7 a promis d'abreuver la soif de tous ceux qui viendraient à lui. C'est l'homme qui dit qu'il peut étancher la soif du monde entier, c'est lui qui a soif. C'est lui qui a soifé, c'est lui qui demande à boire. C'est pas incroyable ça ? Lui qui est en train de traverser le désert, de connaître la soif ultime de la croix, afin que vous et moi, et tous ceux qui seront prêts à placer leur foi en lui, soient abreuvés éternellement. Lui, séparé de Dieu, exclu de sa présence, afin que nous connaissions la satisfaction de l'intimité avec lui. Vous voyez où tout cela nous conduit ? Le puits, la soif au puits, le temple sur la montagne, tout est en train de nous amener vers un seul endroit, vers une seule destination, vers la croix, vers le cœur de l'évangile, vers l'endroit où ces promesses vont devenir réalité. La croix, ce nouveau temple du corps de Jésus, le lieu de la rencontre finale, universelle, ultime entre Dieu et les hommes, et l'endroit où Jésus prendra notre soif. Afin que notre soif soit étanchée. Et c'est pour cela, mes amis, que son dernier cri à la croix sera « Tetelestai ». C'est accompli. Tout est accompli, mission accomplie. Qui c'est qui offre la vraie satisfaction ? Qui c'est qui peut étancher notre soif et celle du monde entier véritablement ? N'est-ce pas Jésus ? Comment est-ce qu'on peut connaître cette intimité avec lui ? Cette intimité qui nous comble entièrement comme aucune relation, comme aucune expérience sur cette terre ne peut le faire. Grâce à son esprit qui nous conduit à la croix, à ce nouveau temple, qui nous conduit à ce lieu où notre soif sera enfin étanchée. Et c'est là que nous sommes conviés. C'est là que nous, vers cela que nous sommes invités à nous tourner. Le seul endroit où Jésus répond non seulement à nos besoins cet après-midi, mais aux besoins du monde entier. L'endroit où Dieu lui-même est en train de chercher des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue et de toute tribu.
pour leur offrir la satisfaction suprême à travers l'intimité avec lui qui devient possible à la croix. Trois questions très rapides pour finir. Première question, comment va ton cœur ? Jésus, c'est l'homme qui connaît tous les cœurs. Comment va le tien ? On ne pourra pas témoigner à d'autres. On ne pourra pas parler à d'autres de quelque chose qu'on n'a pas soi-même vécu. Si tu es un être humain, c'est que tu as mal quelque part. Est-ce que tu as cette conviction intime que grâce à la croix, Jésus-Christ est capable de combler ton cœur ? Deuxième question, où est ta satisfaction ? Et là, ce n'est pas le questionnaire doctrinal. Là, je vous pose la question, le jour, où est-ce que tu trouves ta satisfaction ? Si tu es là cet après-midi et en fait, tu ne te sens pas comblé, tu ne te sens pas satisfait, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, est-ce que je peux te poser très directement la question, quelle est la chose en dehors de Jésus-Christ ? À qui ou à laquelle tu es en train de te demander de te combler ? Quand ça ne va pas, quand c'est dur, quand le découragement frappe à la porte, quel est ton réconfort ? Quel est ton refuge ? Est-ce que c'est dans le frigo ? Est-ce que c'est la paresse ? Est-ce que c'est la télé ? Est-ce que c'est la pornographie ? Et pour ceux qui se sentent plutôt satisfaits là, peut-être qu'ils se félicitent même. Est-ce que je peux te poser la question, si tu te sens fort, pourquoi ? Parce que ta copine est belle ? Parce que ta voiture est parmi les plus neuves sur le parking ici ? Parce qu'on dit du bien de toi ? Parce que ton église est en croissance ? Parce que tu es comblé par tes enfants, par tes petits-enfants ? Mes amis, il n'y a qu'une seule source de satisfaction qui comblera pleinement. Et si nous cherchons ailleurs, nous cherchons, pour reprendre les termes de Jérémie, dans des citernes fissurées. Troisièmement, qu'en est-il de ton intimité avec Dieu ? Quand tu te réveilles le matin, à quoi est-ce que tu penses en premier ? Est-ce que tu penses directement aux soucis de la journée ? Est-ce que ton besoin viscéral, c'est de regarder si tu as reçu des SMS pendant la nuit ? De répondre à tes mails ? Ou est-ce que ce que tu désires au plus profond de toi-même, instinctivement, c'est de venir et de t'asseoir au pied de cet homme, le seul qui connaît et qui comble tous les cœurs ? Mes amis, tant qu'on n'a pas vécu cela, tant qu'on n'a pas été au bénéfice de la mission de Jésus, nous ne serons pas en mesure de parler de lui et de partager ce message avec qui que ce soit. Je vous invite à prier pour conclure. Père, on a besoin de ce rappel. On a besoin de se rappeler que ce n'est pas nous qui sommes les missionnaires. C'est toi qui cherches. C'est toi qui es venu payer le prix fort pour que nous ayons accès à la satisfaction suprême, pour que nos cœurs soient comblés, pour que nous soyons abreuvés par cette eau qui donne satisfaction, par cet esprit qui nous conduit peut-être en cet instant même au pied de la croix, à ce nouveau temple, à cet endroit où tu as pris notre soif afin que nous soyons abreuvés. Et Père, avant de dire ou de faire quoi que ce soit d'autre, nous voulons venir à toi, t'exprimer notre reconnaissance et te demander que lorsque nous parlons, comme le fera cette femme après sa rencontre avec Jésus, ce sera simplement de ce qu'il y a dans notre cœur, du débordement de ce qu'il y a dans notre cœur grâce à toi que nous parlerons. Rends-nous davantage conscients d'être au bénéfice de ta mission envers nous et ouvre nos yeux pour voir à quel point ta mission envers nous, envers nos voisins, nos collègues, nos amis, nos villes est efficace. Fais-nous cette grâce pour ta gloire.